Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a les 82 victoires de Lynn Seven, un record chez les femmes. Il y a aussi les 6 gros globes d'Anne-Marie Moser-Prohl dans les années 70, ou plus récemment les 17 succès de Michaela Schifrin lors d'une même saison. Sans oublier les victoires en pagaille de Janica Kostelic, Vreni Schneider ou Renate Gotschel, pour ne citer qu'elle. Laquelle est la meilleure? Celle qui a le plus beau palmarès? Celle qui vous a fait le plus vibrer? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande skieuse de l'histoire. Pour m'accompagner, notre consultante Florence Masnada, ainsi que deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Louis-Pierre Frileux et Laurent Vergne. Salut à tous!
Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, en un mot, qui avez-vous choisi? On va commencer par toi Florence.
Alors moi, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'il y a aussi le cœur qui parle. Donc, j'ai choisi Pernilla Wiberg et Janica Kostelic, avec qui j'ai fait pas mal de courses. Donc, voilà.
On va y revenir. Laurent, qui as-tu choisi?
Lynn Seven.
Et Louis-Pierre?
Moi, ça n'a pas été difficile parce que je n'ai pas fait beaucoup de courses avec elle, mais j'ai eu la chance de la commenter beaucoup déjà. C'est Michaela Schifrin. C'est la seule qui est toujours en activité parmi celles énoncées. Et pour moi, c'est déjà la plus forte. Et ce n'est pas fini.
Alors on va commencer par celle qui a peut-être le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde, Lynn Seven, que tu as choisi Laurent. Pourquoi ce choix, même si pour beaucoup il paraît évident, sauf pour Louis-Pierre, mais pourquoi Lynn Seven?
Moi, il n'était pas si évident que ça. D'abord parce qu'il y a le cœur qui parle. Alors pour ceux qui l'avaient suivi il y a quelques semaines maintenant, on a fait le même podcast, mais avec les hommes. Moi, j'avais choisi Alberto Tomba, qui n'est pas le plus titré, qui n'est pas... C'est peut-être pas le plus grand skieur de tous les temps, mais moi, il m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'était une immense star. Donc là, il y avait plusieurs choix possibles et on va y revenir. Mais moi, le choix du cœur, il aurait pu se porter un petit peu plus loin dans le temps sur Vreni Schneider, qui était une skieuse que j'adorais. J'ai adoré Kostelic aussi. Voilà. Donc c'était pas forcément évident, mais si j'ai choisi Yvonne, évidemment, il y a le palmarès. 82 victoires, 4 globes, 4 gros globes de cristal en Coupe du Monde. Elle a été championne olympique, elle a été championne du monde. Donc il y a aucun manque à son palmarès. Donc c'est vraiment... On peut considérer que c'est, même si certaines ont plus de titres olympiques, d'autres plus de gros globes, que c'est le plus beau palmarès du ski féminin. Mais ce n'était pas la seule raison. Je trouve qu'il y a aussi... Moi, il y a deux éléments qui ont joué. Il y a d'abord sa résilience. Vraiment, ce n'est pas une carrière qui s'est construite dans la facilité. Elle a connu énormément de blessures. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez Vonne, c'est cette capacité souvent... je pense que c'est... propre à beaucoup, beaucoup de skieurs. Il faut être dur au mal quand on fait ce sport-là. Et Florence le sait très bien, on vit, on skie avec la douleur, avec les blessures. Il ne faut pas être douillet pour faire du ski de haut niveau. Mais disons que dans le cas de Lynn Seven, particulièrement, je trouve que sa carrière, qui s'étend quand même sur une bonne quinzaine d'années au très haut niveau, a été marquée par beaucoup, beaucoup de problèmes physiques. Et à chaque fois, elle est revenue. Elle a gagné des très grandes courses en étant blessée, notamment à Vancouver, quand elle est championne olympique de descente en 2010, où elle s'était blessée au tibia 2 semaines avant. Donc ça m'a beaucoup marqué chez elle. Et au-delà de son palmarès, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a le fait que pour moi, c'est une immense star. C'est la plus grande star de l'histoire du ski féminin. Et on en avait parlé la dernière fois avec Marcel Hirscher, qui est probablement le plus grand skieur de tous les temps. En tout cas, si quelqu'un veut avancer ça comme analyse et comme vérité, c'est difficile de le contredire. Mais on avait été d'accord aussi pour dire qu'il manquait un petit quelque chose dans la carrière de Marcel Hirscher. C'est son rapport... au public, aux médias, et puis au fait que même s'il était immensément populaire chez lui en Autriche, il n'avait pas transcendé les frontières de son pays ni de son sport. Je trouve que Lynn Seven l'a fait. Et vraiment, alors il y a plein de choses, il y a le côté people, mais pas que, elle dégage quelque chose, c'est une vraie star, elle l'a assumé, tout le monde ne l'assume pas. Et donc c'est cette combinaison, ce triptyque entre un palmarès, un caractère, et puis la star qu'elle est, qui m'ont fait pencher pour Lynn Seven.
Flo, sur les pistes, sur les skis, Lynn Seven, c'est quelqu'un qui t'impressionne aussi?
Oh oui, je pense qu'elle a vraiment amené, comme l'a dit Laurent, quelque chose de différent, et pas seulement sur le côté people et avec ses victoires, mais même au niveau du ski lui-même, quoi. Elle avait une capacité à, comme on dit dans le ski, le terme qu'on emploie, c'est emmener la vitesse. C'était vraiment cette capacité aussi à utiliser tout son matériel. Et d'ailleurs, ça a été une des premières à utiliser des skis garçons, des skis plus longs. Après, il y a eu cette envie d'aller courir un peu, d'aller défier les garçons, mais ça faisait partie aussi du personnage. Mais honnêtement, même si certains rigolaient, je pense qu'elle aurait été pas si ridicule que ça à Lake Louise. Je pense que même il y a des garçons qui auraient été un petit peu gênés parce qu'elle en aurait battu certains. Donc voilà. Mais voilà, Lindsay, c'est comme il l'a dit, le retour des blessures et puis sa carrière a tout le temps évolué. Elle a joué avec aussi, elle a amené tout ce qui est glamour. Je veux dire, c'est la première fille qui est venue maquillée. Imaginez, quand on part au ski, on a les chaussures, le casque, tout ça. Et puis elle arrive le matin, elle était maquillée, donc elle avait dû se lever à 5h30 pour l'eyeliner, la poudre, et puis avant le kiss and cry, elle était. Mais elle a révolutionné tout ça. Et ça a sorti aussi le ski des montagnes. Et pour ça, on doit lui dire merci.
Louis-Pierre, toi qui commentes le ski féminin sur les antennes d'Eurosport avec Flo notamment, alors plus récemment tu parlais de Michaela Shiffrin, mais Lynn Seven, c'est quelqu'un, tu te reconnais dans tout ce qui est dit?
Ouais, c'est quelqu'un j'ai eu la chance de commenter, alors pas très longtemps, par contre j'ai eu la chance de commenter son retour, et je rejoins beaucoup Flo et Laurent sur le côté star, où c'est vrai que le retour de Lynn Seven, ça a été une saga, quoi. C'était au-delà de la skieuse, pour moi c'était vraiment un personnage. Et c'est vrai qu'au moment où Lynn Seven s'est lancée, c'était toujours impressionnant parce que c'était Lynn Seven. On parlait pas de Lynn Seven comme des autres skieuses. Elle a vraiment marqué son monde. Donc ouais, je l'ai rejoint vraiment là-dessus. C'était, enfin pour moi, voilà, je retiens encore plus le personnage que la skieuse qui était Lynn Seven.
C'est là que c'est marrant, c'est quand même, c'est que dans tout ce que vous dites, évidemment, Laurent, au début, tu parlais beaucoup du palmarès et de la skieuse, mais presque à égalité, il y a cette star, quoi, qui vient à peu près au même niveau. C'est dire l'impact qu'a eu cette skieuse sur le circuit et même au-delà. Laurent.
Ah oui, je pense que c'est vraiment le mot, c'est ça, c'est personnage. Et on en avait parlé la dernière fois quand on avait évoqué Bode Miller, Alberto Tomba, ou Hermann Mayer, qui étaient tous des immenses champions, mais il y avait autre chose derrière. Évidemment, il y avait leur palmarès, il y avait ce qui dégageait sur la piste, mais ce n'était pas que ça, et c'est vrai que le même palmarès de Lynn Seven, sans tout ce qu'il y avait autour, sans ce qu'elle dégageait, et ça ne s'explique pas toujours, hein, c'est voilà, une personnalité, ça marque ou ça ne marque pas, mais je pense que Lynn Seven ne laissait pas indifférent, et ouais, elle avait quelque chose en plus quand même, un truc presque indéfinissable qui font la différence entre les très grands champions et les très grandes stars. Voilà, Marcel Hirscher est un très grand champion, peut-être le plus grand de tous. Lynn Seven est une très grande championne, mais elle est aussi une très grande star. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que même, elle a vraiment eu, il y a plusieurs parties dans sa carrière. Il y a eu le début, quand elle était encore Miss Lindsay Kinloe. Et très jeune, on a vu qu'elle était très très forte. Et très jeune, elle s'est blessée. Hein. Sa première rupture des ligaments croisés, c'est en 2007. Elle a 23, 22 ans, je ne sais plus exactement, mais elle est très jeune. Elle va revenir très vite. Elle connaît une période de 5 années où elle est presque intouchable, puisqu'elle va gagner 4 fois le classement général de la Coupe du Monde. Et je crois que l'année où elle ne gagne pas sur cette fenêtre, entre 2008 et 2012, ça doit être en 2011 où elle échoue pour 3 ou 4 points, donc elle est passée tout près d'un quintuplé fabuleux. Après, elle a connu une période un peu plus difficile, à nouveau des blessures. Elle n'était pas à Sochi parce qu'elle était blessée. Elle revient après Sochi, elle regagne à Lake Louise, d'ailleurs, je crois, qui était vraiment sa descente. Et c'est vrai que sur ce type de descente, ça aurait été marrant, mais intéressant de la voir contre certains garçons, parce que je pense effectivement que sur ce type de piste, elle n'aurait pas été ridicule. Et puis même jusqu'à sa sortie, où elle fait une dernière médaille aux Mondiaux à Åre, je crois, en Suède, en 2019, en descente, médaille de bronze. alors qu'elle était quand même bien, bien en vrac. Et voilà, là, elle en rajoute une couche. Je crois qu'elle devient la plus vieille médaillée aux mondiaux chez les dames, il me semble. Et puis, elle était la première à avoir au moins une médaille sur 6 championnats du monde différents. Voilà, donc c'est tous ces petits trucs-là. Et même si ce n'est pas une victoire, moi, cette dernière médaille de bronze en Suède, en descente aux mondiaux, ces derniers mondiaux, c'était quelque chose qui avait encore renforcé pour moi le caractère très spécial de cette championne.
Flo, tu voulais rajouter un mot ?
Oui, mais justement, je trouve qu'effectivement, finir sur cette médaille, comme le dit Laurent, au championnat du monde, tout était aligné et tout, ça résumait un peu sa carrière. Enfin, à part que c'était une médaille de bronze. Mais la blessure, parce que 2 jours avant, elle, comme on dit dans le ski vulgairement, elle se met une boîte en super G, mais alors, elle fait une erreur. En fait, c'est impossible que ça passe. Elle se jette sur la porte intérieure, sur un saut. Enfin, donc, elle a un bleu. Voilà, elle sait pas. Elle boite dans l'air d'arrivée. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est mis en scène. Voilà. Et puis, finalement, le départ de la descente est annulé. Est descendu à cause du vent. Donc, elle évite un peu toutes les parties tournantes où elle commençait à avoir un peu du mal techniquement. Elle part sur le bas, sur une descente raccourcie. Et elle va chercher cette médaille de bronze qui... à moitié sur une jambe, quoi. Honnêtement, c'est et elle arrête là-dessus et enfin et voilà et c'est voilà j'ai trouvé ça super classe et assez incroyable et finalement c'était bien qu'elle arrête sur une médaille de bronze par rapport aux autres parce que c'était encore honnêtement elle était vraiment à moitié sur une jambe hein. Donc
c'est un regret pour vous de pas l'avoir battre le record de victoires hommes et femmes confondus. On rappelle, elle a 82 victoires, le record est à 86 victoires.
Non, bien sûr, pour le symbole. Et d'ailleurs, elle a continué, elle s'en cachait pas vraiment, elle avait envie d'aller chercher ce record, mais après, ça devenait plus raisonnable. Elle n'avait pas continué jusqu'à 40 ans pour essayer d'aller chercher 4 victoires de plus. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça, honnêtement.
Ouais, on a eu peur même qu'elle veuille continuer pour aller les chercher.
Ouais.
Parce que même avant cette médaille aux mondiaux dont tu parlais, Flo, je me souviens qu'on se posait des questions déjà. On se disait, est-ce que Lynn Seven, elle peut vraiment le faire ? Est-ce que ce n'est pas peut-être le mondial de trop ? Et on s'était posé pas mal de questions, je me souviens, avant ce championnat du monde, où on n'était pas sûr finalement qu'elle soit capable de faire quelque chose. Et tu parles de ces championnats du monde, c'est vrai, il y avait toute cette dramaturgie avec cette chute quelques jours avant. Et finalement, oui, s'arrêter là-dessus, c'était la plus belle chose. Heureusement même qu'il y a eu cette médaille, parce que si elle était sortie sans, avec ses 4 victoires en Coupe du Monde qu'elle voulait absolument aller chercher, etc., ça aurait peut-être cassé quelque chose. Là, on a vraiment eu la dramaturgie Lynn Seven jusqu'au bout, quoi.
Une autre qui fait beaucoup parler d'elle et qui est toujours en activité, c'est celle que tu as choisi de défendre, Louis-Pierre, c'est Michaela Schifrin. Michaela Schifrin, c'est déjà 67 victoires à seulement 25 ans.
À seulement 25 ans. Mmh. C'est ce qu'on pourrait répéter tout le long de cette discussion. Moi, c'est ce qui me bluffe le plus. Michaela Schifrin n'a que 25 ans. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était une ancienne, comme si elle était là depuis toujours, comme si c'était normal qu'elle gagne. Mais elle n'a que 25 ans. Il ne faut pas oublier, alors, Michaela Schifrin, elle n'a pas le même début de carrière que Lynn Seven. Il n'y a pas eu les blessures. Il n'y a pas beaucoup de blessures, d'ailleurs, jusqu'ici dans la carrière de Lynn Seven. Pas de blessures de Michaela Schifrin, pardon. Pas de blessures importantes. Rappelez-vous, son premier podium, elle avait 16 ans. En Coupe du Monde, quand Michaela Schifrin monte sur le podium pour la première fois avec le dossard 40 en slalom, elle termine derrière Marlies Schild et Tina Mazé. C'était à Lienz en 2011, le dernier slalom de la saison. Elle a 16 ans. Aujourd'hui, des filles qui montent sur le podium à 16 ans en Coupe du Monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des chiffres, beaucoup de chiffres, évidemment, pour parler de Michaela Schifrin. Elle a un palmarès qui est déjà énorme. Laurent parlait des gros globes de cristal remportés par Lynn Seven tout à l'heure. Il y en a déjà 4 des gros globes de cristal pour Michaela Schifrin. Le premier, c'était... il y en a 3, pardon. 3, l'année dernière, elle échoue parce que bon, il y a eu pas mal de problèmes. On va en reparler en fin de saison. Son palmarès, il est immense. 3 gros globes de cristal, le premier en 2017. Ça remonte déjà. Il y a ce titre mondial en slalom en 2013 également. Ça fait quand même 4 championnats du monde de suite qu'elle est titrée en slalom. Ça, c'était jamais vu. C'est du jamais vu. Ça ne s'était jamais fait. Donc, son premier titre mondial, c'était en 2013 à Michaela Schifrin. Elle a 18 ans. Être championne du monde de slalom à 18 ans, c'est incroyable. On attend qu'elle confirme ensuite et elle ne fait que confirmer. Elle a déjà 8 petits globes de cristal. Oui, alors certes, elle n'a pas le palmarès des autres aujourd'hui, mais je pense qu'elle est encore loin d'avoir terminé sa carrière. Michaela Schifrin, alors on se parle, c'est 99 podiums en Coupe du Monde à 25 ans encore une fois, on le rappelle. Michaela Schifrin, c'est aussi un personnage, je dirais, dans sa manière. Pour ceux qui suivent un petit peu ses conférences de presse, notamment, qui suivent ses interviews après les victoires, Michaela Schifrin, c'est un personnage. Alors, elle a eu des problèmes étant plus jeune, elle a été hyperactive, elle a eu toutes sortes de problèmes de comportement. Et c'est vrai que parfois, on se demande aussi qui est Michaela Schifrin. Elle peut avoir des attitudes complètement différentes face au micro. Michaela Schifrin, il y a des fois, on l'interroge après une victoire, elle ne sait pas quoi dire. Il y a eu son retour. Alors, l'année dernière a été particulière. Moi, je pensais qu'elle allait gagner clairement un quatrième Gros Globe de Cristal. Ça aurait fait quatre à la suite, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il y a eu cette pandémie, il y a eu le décès de son papa. Et Michaela Schifrin, elle s'est donc arrêtée à 3 et il y a eu son retour cette saison. Elle est moins dominatrice, Michaela Schifrin, mais pour moi, il y a plein de signes aujourd'hui qui montrent que c'est vraiment la plus forte, c'est la façon dont elle se relève et dont elle continue. Parce que clairement, elle aurait pu se dire cette saison, je fais l'impasse. Parce que Michaela Schifrin, elle n'y est pas en ce moment, vraiment. Certes, elle a gagné, mais pour moi, ce n'est pas encore la grande Michaela Schifrin. Mais c'est la plus forte dans le sens où elle se donne des priorités, le général, etc. Elle l'a mis de côté pour cette saison. Elle se concentre sur son ski. Et on voit, elle a déjà gagné cette saison malgré toutes ses complications. Pour moi, c'est clairement la plus forte pour toutes ces raisons-là.
Et si on devait faire un qui c'est le plus fort dans 5 ans, pour toi, il n'y a pas de doute,
elle sera devant. Il n'y aura pas de doute, elle sera devant. Je ne sais pas quels sont les chiffres dans 5 ans, mais si on regarde sur ces 5 dernières années, c'est incroyable ce que fait Michaela Schifrin. 67 victoires en Coupe du Monde. Vous parliez des 82 de Lynn Seven et le record qui est à 86. Je pense qu'à 25 ans, avec 67 victoires, elle sera largement en mesure d'aller les chercher.
Flo, tu la vois aller la chercher, toi ?
Ça peut se passer dans une carrière. Je rappelle qu'elle n'a pas souvent été blessée non plus.
Flo, tu la vois aller la chercher, le record de victoires, Michaela Schifrin ?
Ouais, j'espère vraiment. Je trouve que moi, quand je pense Michaela Schifrin, je pense exemplarité technique. Enfin, c'est juste, des fois, je commente, alors on essaye d'être un peu critique, mais à chaque fois, on dit, mais qu'est-ce qu'on va dire sur elle, quoi. En slalom, à chaque fois, tu dis, mais elle a la position idéale. Alors oui, elle fait quelques erreurs, et heureusement, parce que, mais quand il y a des conditions difficiles, elle est pas, peut-être moins ces derniers mois, mais parce qu'elle est en phase de reconstruction, mais elle était intouchable. Enfin, voilà, c'est techniquement, en slalom, c'est tellement beau, et puis c'est moderne. Et puis aussi, comme le disait Louis-Pierre, moi ce que j'aime bien aussi, c'est son naturel. Justement, c'est un peu l'opposé de Lynn Seven, qui est un peu plus dans la starification, dans le maquillage, le truc, la mise en scène de ses blessures, de tout, de ses amours et autres. Et Schifrin, c'est beaucoup plus nature. C'est beaucoup plus. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, elle répond aux questions, puis elle ne sait pas quoi dire, quoi. Et on la voit, elle prend des fois 30 secondes avant de sortir quelque chose. Mais dit quelque chose, maintenant, je ne sais pas trop. Et puis, elle rigole, et puis, elle joue de la musique, elle chante. Voilà, ce n'est pas évident de se mettre, de s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Et ça fait ce côté un peu touchant, mais je trouve assez indéfinissable. Je suis tout à fait d'accord. Je me dis, tiens, si je la qualifierais, c'est une immense championne, elle est nature, elle est... Mais voilà, aussi bien l'INSEE, c'est la star. Michaela Schifrin, quel qualificatif mettre derrière ? Peut-être la plus forte. Peut-être la plus forte, voilà.
Et c'est une star à sa manière, finalement. C'est-à-dire qu'elle a un côté, elle a un côté un peu mystérieux, un peu fascinant. Ouais. Et pour parler du ski, alors c'est marrant ce que tu dis, Florence, parce que moi, je ne suis pas un expert, je n'ai pas ton regard d'expert. Mais ce qui me frappe quand je la vois skier, particulièrement en slalom, c'est effectivement cette impression de perfection technique et qui parle même à quelqu'un comme moi qui ne suis pas un grand skieur, j'allais dire, ou même un skieur moyen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intelligible quand on la voit skier. Et si je pouvais faire un parallèle, je ne sais pas, c'est un petit peu comme Federer en tennis. C'est-à-dire que ça a l'air simple. Quand on voit jouer Federer, ça a l'air facile, alors qu'on sait que ça ne l'est pas. Mais la façon dont il exprime ça, Federer, fait qu'on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde, donc c'est intelligible. Et Schifrin, je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que quand je la vois skier, je me dis ça a l'air facile, en fait. Donc, et ça, je crois que c'est vraiment au-delà d'un palmarès, cette capacité à transmettre ça, à dégager ça. C'est vraiment très, très, très rare dans le sport, quelle que soit la discipline. Et c'est vraiment le truc qui me frappe. Et après, bah, oui, Louis-Pierre l'a dit, moi, le seul truc qui m'a freiné, c'est qu'elle a que 25 ans et qu'elle est encore là. Mais elle est sur des temps de passage hallucinants. Et bon, c'est pas ce qui peut arriver dans une carrière, hein, et notamment en ski, parce que les blessures font partie du jeu, entre guillemets. Mais je lui souhaite vraiment, il faut souhaiter qu'elle casse tous ses records, qu'elle finisse à plus de 100 victoires. Et je pense que ce qui lui arrive maintenant, on peut penser qu'elle est à peu près au milieu de sa carrière. Si tout va bien derrière, si elle redevient elle-même, je pense que ça la rendra encore plus grande, parce que finalement, à marcher pendant une décennie sur son sport, comme l'a fait Marcel Hirscher, de façon très linéaire comme ça, c'est magnifique, mais je trouve que l'histoire est encore plus belle quand il y a des drames personnels, voilà, les grands drames de la vie ou les petites blessures qui rendent plus dense un parcours, une carrière. Et je pense que dans 4, 5, 6 ans, quand on se retournera sur la carrière de Mikaela Shiffrin, cette année 2020 restera peut-être comme une anomalie, mais quand même comme quelque chose d'important. Et je pense que ce sera, sinon positif, en tout cas, quelque chose qui va lui servir. Et moi, j'ai, blessure mise à part, j'ai aucun doute qu'elle va redevenir la meilleure, pas cette année, mais dans un an, dans 2 ans. Et je vois aucune raison vraiment pour qu'elle ne redevienne pas, la Shiffrin des saisons précédentes.
C'est intéressant ce que tu disais effectivement sur la technique où ça a l'air simple. C'est vrai que c'est ce qui me bluffe le plus parce que des fautes en descente ou en super G, on va les rattraper peut-être, je vais pas dire plus facilement, mais parfois ça va moins se voir. Je vais prendre un exemple sur la descente sur le super G de Saint-Anton. Lara Goute, elle fait pas tout parfaitement, mais elle garde la vitesse. Elle peut aller chercher cette victoire. Sur un slalom, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et Mikaela Shiffrin, sur ces slaloms, en fait, c'est vrai, Flo, parfois on regarde et en fait, il n'y a pas de faute. Et c'est ça qui est dingue, 17 victoires en une saison, faut aller les chercher. Hein, ce qu'elle a fait Mikaela Shiffrin, ce record, il est incroyable sur des disciplines techniques où c'est beaucoup plus difficile de rectifier le tir quand on commet une erreur, je pense. Et c'est ça qui est dingue, c'est que Mikaela Shiffrin, tout semble facile sur des conditions qui peuvent être conditions de neige différentes, des conditions de météo difficiles. Elle, non. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Elle va toujours faire son ski. Et c'est toujours fluide, c'est toujours beau esthétiquement. Mikaela Shiffrin en slalom, c'est beau, quoi.
Tu dis Mikaela Shiffrin en slalom, effectivement, c'est une grande spécialiste de slalom, mais pas que. J'ai envie de dire, c'est aussi une des 7 skieuses à avoir remporté au moins une course dans toutes les disciplines du ski
Ouais.
alpin, donc soit les épreuves de vitesse ou les épreuves techniques.
L'Inseven était la sixième d'ailleurs.
C'est ça. Flo, ça c'est quelque chose qui. Est-ce que elle peut aller chercher quelque chose en plus? Est-ce qu'elle aurait intérêt à aller sur davantage sur des épreuves de vitesse ou pas?
Bah, ce qu'il y a, c'est ce qui est fou, c'est que j'allais compléter effectivement, rebondir là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'elle y a été, elle a été performante. Donc c'est ça qui est étonnant. Avec sa maîtrise technique, en fait, sans prendre énormément de risques, elle arrive quand même enfin, elle a gagné les Clouise, elle a gagné même des descentes qui étaient faciles, quoi. Enfin, faciles. Pas forcément adaptées à son style. Donc le peu qu'elle fait en entraînement, à chaque fois, dès qu'elle passe sur des épreuves de vitesse, c'est pas juste pour participer, pour voir et marquer quelques points. À chaque fois, elle y a été, enfin, à quelques exceptions près, bien sûr, mais elle a scoré, elle a été championne du monde à Auray en Super G, hein, je crois. Alors, pour elle, c'est plus facile quand il n'y a pas d'entraînement descente avant, si elle les fait ou pas, mais non, elle est pluridisciplinaire, elle est polyvalente, elle est. Voilà, alors après, faire courir toutes les disciplines, c'est lourd hein, sur la saison. Surtout quand on gagne, qu'on fait les conférences de presse avant, après. Voilà, et c'est ce qui souvent est compliqué. Mais par rapport à ça, on se dit, bah, tiens, finalement, s'il y en a une qui peut battre le record de points sur une Coupe du Monde, normale, hein, pas cette année avec le Covid, mais de Tina Mazet à 2400, je ne sais plus combien de points. C'est clairement pour moi Mikaela Shiffrin.
Pour rebondir en Coupe du Monde, elle a fait 12 descentes, Mikaela Shiffrin seulement. Elle en a gagné deux et elle a 5 podiums en 12
Énorme.
descentes. Voilà, Mikaela
Énorme.
Shiffrin, elle est capable d'exceller vraiment dans toutes les disciplines, ce qui me fait penser que les gros globes de cristal, elles vont remporter encore un paquet, je pense.
Encore un paquet. Flo, toi, tu voulais nous parler de deux autres skieuses, Pernilla Wiberg et puis Janica Kocelic. Tu as bien connu Pernilla Wiberg, hein, je crois qu'elle t'a devancé à Nagano en 98 sur la descente. Dis-nous pourquoi tu l'as choisie.
Je crois que je suis pas rancunière parce qu'elle m'a toujours devancée. Il y a le seul truc où je suis un peu plus grande qu'elle, c'est par la taille. Voilà, c'est le seul truc, voilà. Parce qu'elle est plus petite, mais oui, je suis toujours en contact avec elle. On est aussi à la commission de la sécurité de la Fédération internationale de ski pour les athlètes. Elle réside à Monaco, donc on est souvent en contact. Voilà, Pernilla, c'est une championne qui est arrivée toute jeune, une petite boule d'énergie musclée qui était pas forcément, j'ai envie de dire, hyper d'ailleurs spécialisée slalom et géant. D'ailleurs, elle a énormément de victoires en slalom. J'ai regardé les stats, elle en a 14. Mais elle a gagné dans toutes les disciplines quand même. Oui, c'est une fille qui a eu la carrière classique des filles qui arrivent par la technique et qui allongent les virages et la vitesse et qui vont ensuite un peu plus vers la vitesse. Elle a gagné partout. Et elle a eu nombre de blessures. Et puis l'histoire fait qu'elle est originaire du même village que Stenmark et puis que d'autres champions suédois qui ont beaucoup gagné. Donc oui, Pernilla, c'est une vraie figure dans le ski, mais pas avec le côté star. Pour le coup, elle était quand même beaucoup plus discrète. Bon, le côté un peu scandinave, peut-être. Je pense que c'est un peu plus discret. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir sur Pernilla.
Oui, Pernilla, juste pour donner quelques chiffres pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, c'est 24 victoires en Coupe du Monde, 2 titres de championne olympique, tu le disais, et vainqueur du classement général en 97. Et également, elle fait partie des 7, comme on disait tout à l'heure, qui ont gagné dans toutes les disciplines, d'où cette polyvalence que tu soulignais. Laurent ?
Ouais, je me souviens de cette période. Moi, c'était devant ma télé à l'époque, et je me souviens surtout de son titre olympique à Albertville en géant, je crois, c'était.
Ouais. Oui, en géant.
Ça, c'était un souvenir fort. Et je garde l'image de quelqu'un de très souriant aussi. Ce n'était pas une star, mais j'ai l'impression qu'elle était toujours... Ouais. Voilà, c'était une... Elle avait un sourire communicatif et elle dégageait quelque chose d'agréable. Et on se disait que voilà, c'était le genre de personne avec qui on irait volontiers boire une bière ou manger un morceau. Quoi. C'est l'image que je garde de la personne de Pernilla Wiberg.
C'est pour ça que c'est la copine de Flo. Hein. Cool, boire des coups, tout ça.
Tu évoquais également Janica Kostelić, autre personnage là.
Là,
circuit.
Là, on parlait tout à l'heure d'histoire. Alors là, l'histoire de Kostelić, parce que finalement, Janica, est-ce qu'on peut en parler toute seule? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut l'associer à son papa et à son frère. Ils ont été champions du monde, le même jour, ou sur le même championnat à Saint-Maurice en slalom. Elle a tout gagné avec sa technique vraiment particulière. Et puis, c'était caractéristique un peu des pays de l'Est avec beaucoup, beaucoup de travail. Je me rappelle quand elle est arrivée sur le circuit, je me rappelle très bien, c'était à Saint-Anton, j'ai une anecdote. Pas Saint-Anton, c'était aux États-Unis, c'était à Mammoth Mountain. Et on s'entraînait, il avait fait mauvais. Et en fait, toutes les équipes, l'après-midi, allaient s'entraîner en slalom. Enfin, toutes celles qui faisaient du slalom. Et on lissait le passage, parce qu'il y avait eu de la neige avant que toutes remontent et aillent s'entraîner. Et en fait, elle est arrivée, elle n'a pas lissé. Elle a passé dans le tracé. Et donc, là, elle s'est fait... Bon, personne... Enfin, c'était pas les règles du circuit, quoi. Elle s'est fait descendre. Et du coup, elle a été beaucoup, souvent, assez isolée, quoi. Mais c'était sa manière. C'est-à-dire que moi, après une descente, j'allais m'entraîner, j'allais faire 2-3 manches de slalom. Elle en faisait 7, 8, 9, 10. C'était l'entraînement tout le temps, quoi. Et je ne sais même pas comment elle faisait pour supporter ses doses, ses charges d'entraînement, mais c'était sa marque de fabrique aussi.
Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que je voulais te demander, Flo, justement, comment elle était perçue, Kostelić, sur le circuit, quels étaient ses rapports avec le reste des skieuses?
Et ben, elle était très isolée. En fait, elle s'entraînait beaucoup plus. Je te dis, quand elle est arrivée, voilà, il y a eu cette anecdote. Bon, elle a été un peu remise à sa place, je me rappelle, par une Italienne, Bibiana Perez, qui lui dit « Non, mais attends, on va t'expliquer comment ça se passe ici. » Et puis, elle s'entraînait tellement qu'en fait, finalement, elle n'avait pas le temps d'aller boire des coups, par exemple, avec nous. Donc voilà, c'était moins… Oui, tout le monde était admiratif de cette personne. En plus, elle aussi, hein, les blessures, je crois qu'elle a eu 21 opérations au genou, donc il a fallu revenir. Elle est allée aussi en vitesse, mais voilà, il y avait ce petit clan croate qui s'entraînait un peu tout seul. Et puis son histoire aussi fait qu'au tout début de sa carrière, elle allait pas à l'hôtel, hein, elle dormait dans la voiture avec son père. Elle a été aidée par le comité international olympique, elle a eu des bourses pour continuer sa carrière. Donc voilà, il y a tout ce qui est autour, mais avec elle aussi ce côté mystère Mais pour moi, elle est un peu indissociable vraiment de son frère et de son père.
Elle a moins de départs en Coupe du Monde que les autres. Elle n'a même pas 200 départs en Coupe du Monde. Ouais. On l'a moins vue sur le circuit, mais elle a beaucoup marqué. Quasiment deux fois plus de départs pour Lynn Seven ou quoi. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup marqué. C'est un nom, c'est vrai, qui revient souvent.
Et c'est vrai qu'on parlait de la précocité de Shiffrin et de ce que Shiffrin avait accompli à 24-25 ans. Mais Kostelić, elle gagne la Coupe du Monde, elle a 19 ans. Et elle gagne trois gros globes de cristal, je crois. Ouais. Et le dernier, elle doit avoir 23 ou 24 ans.
Elle en gagnait en 2001, 2003 et en 2006.
Voilà. Et 2006, c'est le dernier. Elle a donc, elle doit avoir 20, je ne sais plus si elle est 82 ou 83, elle doit avoir 23 ou 24 ans. Et on pensait vraiment qu'elle était partie pour affoler les compteurs très très longtemps. Donc, c'est vrai que ça doit aussi inciter à la prudence parce que on ne sait jamais de quoi peut être fait une carrière. Et c'est vrai que Kostelić, elle a vraiment. Alors c'était peut-être son ski aussi hein, qui faisait ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle a payé un lourd tribut aux blessures. Et on peut avoir un regret parce qu'elle était sur des bases hallucinantes. Et pour moi, Kostelić, je garde aussi vraiment le souvenir de la rivalité avec Anya Persson. Oui. Pendant plusieurs saisons, c'était vraiment une période que j'ai adorée. C'était deux skieuses qui se tiraient la bourre. Je ne sais pas si elles s'entendaient bien, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait du respect quand même entre elles, beaucoup de respect. Et c'est des très belles années, je pense, pour le ski féminin. Et je regrette que ça n'ait pas duré plus longtemps parce que pendant 3-4 saisons, c'était vraiment, vraiment top de les voir ces deux-là. Ce n'était pas que toutes les deux, hein, mais vraiment, c'était une super rivalité.
Ouais, d'ailleurs, quand tu parles d'Anya Persson, pour moi, c'est vrai que. C'était cette rivalité a fait progresser aussi le ski féminin dans la polyvalence parce que toutes les deux elles étaient polyvalentes et je me rappelle d'un championnat du monde, je crois que c'était à Santa Catarina où quand il y en a une qui gagnait, l'autre elle faisait deuxième et c'était inversé ou alors il y a juste je crois que Kostelić qui n'avait pas fait la descente mais du coup c'est Anya Persson qui gagne quoi. Mais en fait à elles deux elles ont gagné tous les titres c'était assez, et puis l'autre faisait deuxième quoi. Donc c'était assez incroyable,
une razzia.
Ouais.
Il y en a une dont on n'a pas encore parlé, je l'ai évoqué dans l'introduction, qui a le record de globe, de gros globes de cristal, c'est Anne-Marie Moser-Prohl. Dans les années 70, elle a gagné 6 fois le classement général de la Coupe du Monde. Alors, c'est marrant, c'est peut-être un parallèle à faire. On avait Ingemar Stenmark chez les hommes, qui est également dans les années 70-80. Là, on a Anne-Marie Moser-Prohl. C'est plus lointain. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être, mais elle a marqué également le circuit de sa classe.
Oui, elle a marqué. Alors, c'est vrai que c'est un peu le même cas que Stenmark la dernière fois. C'est-à-dire que, évidemment, quand on choisit chacun d'entre nous d'évoquer un skieur ou une skieuse, il y a aussi un côté affectif et c'est difficile de parler bien de quelqu'un qu'on n'a pas vu skier. Alors, comme on est tous très jeunes, Anne-Marie Moser-Prohl, c'est plus les livres d'histoire que les courses devant la télé. Mais c'est vrai que ça marque moins dans l'histoire du ski que les 86 victoires de Stenmark parce que c'est le record de victoire, c'est peut-être quelque chose de plus symbolique, mais ouais, quand même 6 gros globes de cristal chez les filles, personne n'a fait mieux, on a pensé que Kostelić ferait mieux, on pense que Shiffrin l'égalera ou la dépassera, c'est possible, c'est probable, mais c'est pas sûr non plus, parce qu'une carrière, encore une fois, on sait jamais ce que ça peut donner, mais oui, Moser-Prohl, c'est quand même une légende du ski, et je voulais quand même qu'on en dise un mot, comme on avait parlé de Stenmark, et puis c'est aussi quand même, je sais qu'elle avait fait l'impasse sur les Jeux de 76 qui étaient en Autriche, hein, il me semble. Je crois que c'était Innsbruck. Ouais. Donc, c'était chez elle. Elle aurait dû être la star. Et je ne me souviens plus si c'est son père ou sa mère qui était malade. Et elle a renoncé aux Jeux et à toute cette saison pour s'occuper de... Je crois que c'était son père. Si c'est sa mère, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, elle a préféré renoncer à ce qui était quand même, même si elle avait déjà beaucoup gagné, l'objectif d'une vie. Hein, les Jeux Olympiques à domicile... c'est quand même quelque chose de formidable. Et quand vous êtes skieur, que vous êtes autrichien et que c'est en Autriche, je pense que ça doit être un crève-cœur de renoncer à ça. Et pourtant, elle l'avait fait. Et elle était revenue derrière, elle avait regagné. Donc, c'est aussi une histoire singulière et un sacré personnage.
Est-ce que vous avez envie d'évoquer un autre personnage du ski, peut-être Flo, toi qui as côtoyé énormément de championnes qui t'ont marqué?
Il y en a plein qui m'ont marqué. On parlait de Vreni Schneider. Je crois qu'elle aussi, c'est une championne incroyable qui a été sur une saison. Il y avait les chiffres de Michaela Shiffrin, mais elle aussi, hein, en géant slalom, à un moment, elle avait été invaincue pendant je ne sais pas combien de. Je crois qu'une saison, la seule course qu'elle n'avait pas gagnée en slalom, c'était les championnats du monde. Et en géant, elle avait juste pas gagné une coupe du monde, quoi. Elle avait tellement dominé.
Elle avait un record de 14 victoires sur une saison avant que celui-ci soit battu par Michaela Schifrin. Et c'était en 89, donc pendant 25-30 ans, ça a été elle qui a le record de victoire.
Ouais, elle était incroyable. Moi, c'était pas mon idole, mais en tout cas en ski, moi, j'avais Tomba chez les garçons et Vreni Schneider chez les filles. C'était vraiment, j'adorais cette ski. Je saurais même pas dire pourquoi, mais ça s'explique pas toujours. Mais elle a peut-être pas laissé une trace aussi forte que d'autres, parce qu'il y en a qui sont passés derrière et qui ont eu des carrières invraisemblables, mais c'est quand même une sacrée carrière, un sacré palmarès aussi quand même.
55 victoires en Coupe du Monde.
Ouais. En plus, elle était super timide et elle parlait que suisse allemand. Donc,
ça aide pas.
Ça aide pas. Après, à part dans
ça limite la conversation. Oui, c'est vrai que j'avais pas l'impression effectivement que je serais allé boire une bière avec Vreni Schneider.
Non, après, je pense qu'on peut évoquer rapidement Renate Götschel qui a gagné énormément de vitesse aussi pour les skieuses autrichiennes. Mais comment ne pas parler de Marielle Götschel? Parce que en France, voilà, c'est quand même un personnage pour le ski qui est assez incontournable pour nous, quoi. Elle a marqué l'histoire du ski. Voilà, quand on parle d'ailleurs, je pense que si dans la rue, peut-être moins elle est tout jeune aujourd'hui, mais on pose la question quelle championne de ski, je pense qu'il y a Marielle Götschel ressort peut-être plus après pour ses déclarations, pour sa gouaille. Dans les grandes gueules ou autres qu'on a vues derrière, et puis qu'à chaque fois que les skieuses françaises étaient mauvaises, bling.
Ouais.
C'est bizarre, on ne l'a pas entendu trop ces derniers temps. Mais
bon. Ouais, j'ai souvenir notamment d'Antoine Deneria, qu'on avait pris pour son grade avant les Jeux de Turin et qui avait eu quelques mots pour elle, sympathiques quand il a été champion.
Mais ça fait partie du jeu. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment sa personnalité. On parlait de personnalité et d'histoire. Ben voilà, c'est aussi sa personnalité. Et c'est ce qu'on aime aussi. Et puis, je pense que ça nous faisait du bien aussi de nous faire secouer un peu par les anciens. Voilà. Et puis, Marielle, en fait, elle aime le ski. Elle aime vraiment le ski. Et c'est pour ça qu'elle voudrait que le ski brille, le ski français continue à briller, quoi. Elle est hyper, hyper cocardière. Le drapeau, la France. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi pour ça.
On disait 7 titres mondiaux, hein, Marianne Götschel. Par contre, c'est ça qui est incroyable. Elle a arrêté sa carrière à 23 ans.
Oui, bah oui. Ouais. C'est sûr que.
En préparant cette émission, ça serait bête de ne pas en parler. Tu as parlé de Götschel, mais il y en a une autre. Et la seule française qui a gagné le globe de cristal, vous savez qui c'est? Michel Jacquot, en 1970. C'était bien aussi, je pense, de la citer, parce que bon, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu des médailles, hein, dans les grands championnats. On pense à toi, Flo.
Oui, non, bon.
Eh ben oui, mais alors ça compte quand même.
Oui, mais il y en a plein. Après, on peut aussi, enfin, si on parle des françaises, moi je voudrais faire un petit j'ai une pensée pour Régine Cavagnou, qui est décédée dans un accident à l'entraînement, qui était championne du monde, qui avait le titre olympique au bout des spatules, et finalement le symbole, ça a été Carole Montillé, championne olympique de descente, quelques mois après le décès de Régine. Je crois que là aussi c'est des histoires qui ont marqué le ski et des grandes championnes qui sont importantes pour le ski. Et aujourd'hui, voilà, ça fait quelques années qu'on s'accroche avec Louis-Pierre pour...
C'est marrant que tu parles de Carole.
On a testé ça, mais depuis on s'est un peu isolé, quoi, depuis un petit moment.
Tu parles de Carole Montillé, et c'est vrai que je suis sûr que tu parles à des jeunes dans la rue. Tu en as beaucoup pour qui ça doit être Carole Montillé, la dernière qui a vraiment marqué en France.
Oui, peut-être. Ouais.
Ça avait fait beaucoup de bruit, Carole Montillé.
J'étais à Salt Lake City en 2002 et j'étais en bas de la piste quand Carole Montillé a été championne olympique. Et c'est ce genre de moment qui te font penser qu'il y a, je ne sais pas si c'est le destin, mais en tout cas que... Il y a des moments quand même assez symboliques et voilà, c'était difficile d'y voir juste une victoire, et je pense que ça a été tellement lourd à porter pour elle aussi, tout cet hiver-là, pas que pour elle, pour toute l'équipe de France, mais c'est vrai que derrière, c'était elle qu'on attendait après Régine, et voilà, elle s'est retrouvée, c'était vraiment très très difficile pour elle, et cette course qu'elle sort ce jour-là, je sais pas, ça aurait pu totalement, je pense qu'il n'y avait pas d'entre-deux, c'est-à-dire ce jour-là où elle finissait 40e, où elle était championne olympique, quoi. Elle est, et voilà, on sent qu'elle était portée par quelque chose. Je ne sais pas si c'est les forces de l'esprit, comme me disait Mitterrand, ou on appelle ça comme on veut, mais c'est quelque chose de spécial. Et c'était très particulier ce jour-là à Salt Lake.
Non, mais c'est sûr, parce qu'en plus, si, enfin, je sais pas, on pourrait faire un podcast là-dessus, sur cette journée-là. Mais vraiment, parce que les jours, les entraînements avant, elle est pas dans le coup du tout. Et puis finalement, la météo change, la course est reportée d'un jour. Et psychologiquement, elle va faire, enfin voilà, elle va manger des crêpes, enfin faire des choses comme ça. Il faut savoir techniquement, elle prend des skis que son équipementier lui donne à tester. Enfin, disons, ceux-là, ils sont rapides. Neige américaine un peu particulière. Normalement, jamais de la vie tu fais ça. Tu prends, les avais jamais skié ces skis-là. Pas fait un virage avec. Ils lui disent, tiens, prends ces skis, vas-y. Et comme de toute façon, elle dit, bah, j'y suis pas parce qu'aux entraînements, elle est vraiment larguée. Hein. Elle est à... Et elle les prend. Et puis alors, bon, bah, tout, comme tu dis, voilà, peut... on ne sait pas ce qui se passe, mais tout est aligné à ce moment-là. Et elle gagne ce titre quelques mois après le décès de Régine, le titre suprême, quoi, championne olympique de descente. Enfin, ouais, y a eu quelque chose de particulier ce jour-là, et si t'étais là-bas, je pense que tu l'as ressenti.
Ah oui, c'était vraiment. Même en parlant là, je suis encore très très ému, quoi. C'était. Et je me souviens qu'un ancien de l'équipe de France, je dirais pas son nom, mais il m'avait dit juste, on l'avait croisé en bas, et il m'avait dit en zone mixte, vous l'emmerdez pas avec Régine, c'est son moment, quoi. Parlez-lui d'elle et de ce qu'elle vient de faire. Régine, elle le sait, elle sait qu'elle a aussi gagné pour elle. Elle a ça, elle le sait. C'est pas la peine de lui rabâcher. Et donc évidemment, il y avait eu des questions par rapport à Régine Cavagnou, mais je me souviens qu'on avait quand même vraiment essayé de pas lui voler ce moment-là, parce que c'était quand même, au-delà de tout ça, un accomplissement sportif extraordinaire, quoi.
Sur ces beaux souvenirs, on va terminer ce podcast. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
Salut tout le monde.
Salut.